Voilà, que feras-tu de Jésus? C'est une question qu'on pourrait poser. On pense à quelqu'un qui ne connaît pas encore l'Évangile et qui écoute l'Évangile. Mais c'est une question que l'on peut poser aussi à tous ceux qui connaissent Christ, parce que chaque jour de notre vie, nous devons prendre la décision de ce que nous faisons de Jésus, de ses commandements, de lui, de la relation que nous devons avoir avec lui. Donc c'est une question qui est crucial, bien sûr, pour chacun d'entre nous. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons encore à tes pieds après avoir pris le temps ensemble de partager des requêtes, des sujets de prière, de prier les uns avec les autres. Nous voulons ouvrir ta parole et te prier que par ton esprit tu nous illumines, afin que nous, notre intelligence soit ouverte et que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Aide-nous, nous te prions. Éclaire-nous et dirige-nous. Donne-nous des cœurs sensibles pour recevoir ta parole et des cœurs obéissants pour la mettre en pratique. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Timothée chapitre 2. Donc on est arrivé au chapitre 2 de 1 Timothée. Donc vous avez dû lire ou relire tout le chapitre 2, mais je vais quand même le lire encore une fois, 1 Timothée chapitre 2. Écoutons la parole de Dieu. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, si vous avez lu ces passages, je vous demandais de dire en combien de parties on peut diviser ces 15 versets. Je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose. Est-ce que vous aviez une réponse à apporter? 1, 2, 3, 4. Combien de parties vous avez vues? Combien de parties vous avez eu envie de la diviser?
Trois
parties, d'accord. Quelles sont les trois parties?
1 à 4, 5 à 7 et 8 à 15.
1 à 4, 5 à 7 et 8 à 15. Oui, pourquoi pas, Pourquoi pas? Est-ce qu'il y en a qui ont autre chose?
Tu as divisé en deux parties.
La première partie,
Oui. Très bien, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a autre chose peut-être? Non. Mais moi aussi, j'ai deux parties, hein, et je crois que Rebecca a bien souligné, hein, les deux parties que l'on a. Alors, c'est vrai que de 1 à 8, on peut voir qu'il s'agit de prière, quand même, hein. Parce que le passage commence avec la prière, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Et puis, jusqu'au verset 8, il dit, je veux donc que les hommes prient, hein. C'est comme si Paul parle de la prière. Après, il y a une petite digression. Il parle de quelque chose. Il développe quelque chose au milieu, hein, à partir du verset 4. Et puis après, il revient. Il dit, je veux donc. Comme si, voilà, il ramasse tout cela. Et puis il dit, verset 8, je veux donc que les hommes prient en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et puis à partir du verset 9 jusqu'à la fin, il est évident qu'il parle de la femme, hein, en tout cas de sa tenue et de sa tenue vestimentaire, mais aussi de sa tenue dans l'église, hein, en relation avec les hommes. Alors on va pas voir ça aujourd'hui, bien sûr, on va rester sur la première partie ici, de 1 à 8, hein, à peu près. Donc ici, l'apôtre, on le dit, exhorte à la prière. Ça c'est clair. Vous rappelez-vous, la semaine dernière, on avait vu qu'il avait exhorté Timothée à combattre le bon combat. Et Paul dit ici une chose qui est très importante. Souvent, dans le combat, on oublie, on pense qu'il faut faire des choses, mais la chose la plus importante, c'est d'abord la prière. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, verset 1, j'exhorte donc avant, quoi, toute chose, hein, à faire des prières. Et souvent, dans la Bible, même, le combat est toujours associé avec la prière dans les écrits de Paul. Par exemple, juste pour vous citer un passage, en Colossiens 4, 12, il dit, il parle d'Épaphras, et puis il dit, Épaphras qui est des vôtres, il vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prière. Donc il y a ici les deux choses. Même la prière est considérée comme un combat. Mais rappelez-vous, dans Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul donne les armes de Dieu, il dit que chacun revête les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, très bien. Et à partir du verset 18, donc verset 11, il parle, il dit « revêtez toutes les armes de Dieu ». Et puis il donne une liste de toutes ces armes-là. Et au verset 18, il dit « faites en tout temps ». Et par l'esprit, toutes sortes de prières. Et donc, il, après avoir parlé de ce combat et même des armes qu'il faut revêtir pour ce combat, il ajoute aussi qu'il faut que tout cela baigne dans une attitude de prière. Il dit, faites toutes sortes de, par l'esprit, toutes sortes de prières. En Éphésiens, donc, vous pouvez voir ça, Éphésiens 6, versets 11 à 17 pour les armes, et à partir du verset 18 où il parle de la prière. Mais notez bien que Paul dit ici, avant toute chose. Hein. Donc la première exigence, c'est pas juste prier en premier, parce que parfois quand on dit avant tout, on dit voilà, j'ai prié, on peut prier en premier et puis ne pas être dans une attitude de prière. Voilà, j'ai prié, je me suis levé le matin, j'ai prié, j'ai fait ça et puis après hop, je continue, je mène ma vie. Non, ça veut dire que la prière est centrale, elle est prééminente. C'est ça que ça veut dire ici. C'est pas juste une question de chronologie. C'est une question de place, de position que l'on accorde à la prière. Avant toute chose, c'est-à-dire le premier recours que l'on doit avoir dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, c'est la prière. Quand Paul dit à Timothée, combat le bon combat, etc., il dit, attention, mais tout cela dans la prière. Donc la prière est à une place prééminente. Et souvent, il nous semble que, il peut nous sembler en tout cas que la prière est superflue. On ne le dit pas peut-être, mais on trouve des activités ou des choses à faire plus urgentes que de prier. Hein, et on peut sauter les deux pieds joints dès le matin dans des activités, dans des choses que nous avons à faire. On peut même penser que si on prie, on n'aura pas le temps de faire ce qu'on en a à faire. Par exemple, ça peut être la préparation d'une prédication. Si je prends trop de temps pour prier, je n'aurai pas le temps de réfléchir, lire, préparer la prédication. On peut avoir cette attitude-là. Ou si on fait des études, ben, si je prie, si je prends... J'ai pas le temps de faire le culte de famille ou mon culte ce matin parce que j'ai trop de choses à faire. Hein. Et on peut être animé de cette attitude-là. C'est-à-dire que l'urgence des choses à faire prend le pas sur la prière. Et Paul dit non, avant toute chose, hein, avant que l'on parte dans n'importe quoi que ce soit, l'important pour le croyant, et de prier. Donc il souligne que la prière se place au-dessus de tout et qu'il n'y a aucune urgence qui pourrait nous dispenser de prier. Aucune urgence. Et il y a un exemple assez frappant avec Néhémie. Vous vous rappelez de Néhémie, hein? Donc il était auprès du roi à Babylone, quoi, voilà. Hein? Et puis la Bible dit ceci. Il dit au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin, donc il était échanson du roi Néhémie, comme le vin était devant lui. Néhémie dit, je pris le vin et l'offris au roi. Il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Et donc le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et il dit, je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, écoutez ça, il dit, que demandes-tu? Et Néhémie dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. C'est-à-dire, il faut imaginer la situation. Qu'est-ce que tu veux? Imaginez, voilà, on arrive dans le bureau du patron. Il nous voit comme ça, des faits, et puis il nous dit qu'est-ce qui se passe, on raconte, et puis il dit, bon, allez, qu'est-ce que tu veux? Et peut-être dans notre tête, on dit, oh, comment je vais lui dire ça, etc. Néhémie, non, il dit, je prie. Il y a quelqu'un qui a appris ça, la prière instantanée. Il prie d'abord Dieu, et puis ensuite, il parle au roi. Demandez à Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Seigneur, guide-moi, etc. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a dû dire. Mais il a prié d'abord. Vous voyez, là, c'est ça que l'apôtre Paul dit. La prière a une place centrale, avant tout, c'est-à-dire elle doit être l'atmosphère de tout ce que le chrétien fait. Donc la prière a sa place, on va dire, au sein même de l'urgence. On le voit ici pour Néhémie. Alors on reprend notre passage, Paul dit donc ici à Timothée, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce » pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie tranquille en toute piété et honnêteté. Bon, ce que j'ai intitulé cette méditation, la prière avant tout et pour tous. La prière avant tout et pour tous. C'est ce que Paul souligne ici, je crois, c'est le fait que le croyant, le chrétien, en tout cas Timothée, l'exhorte Timothée, a prié. Toujours en première place, mais pour tous les hommes, sans restriction. Ici, donc, premièrement, il montre ici que le chrétien doit saisir son devoir de prière, de la prière sans restriction. Il dit de prier ici pour tous les hommes. Et c'est un devoir, parce qu'il dit « j'exhorte ». Et le mot qui est utilisé par « j'exhorte », c'est un mot fort qui a le sens aussi d'un commandement. C'est un mot ferme, donc c'est pas juste « je te conseille », mais c'est comme s'il disait, je te commande de le faire, de prier pour tous les hommes. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Et donc l'égoïsme, bien sûr, nous pousse à prier pour qui? La première personne pour laquelle on prie, c'est qui? Nous-mêmes. Ensuite, on élargit le cercle, peut-être ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, la famille. Après, on peut élargir le cercle peut-être jusqu'à certaines personnes de l'Assemblée, parfois. Hein. Et puis, on s'arrête là. Hein, on s'arrête là. Essayez de penser à moi-même pour quelles sont les personnes pour lesquelles nous prions. Est-ce que nous prions pour toutes les personnes de l'Assemblée? Je ne vous demande pas de répondre à haute voix, mais pensez à cela. Est-ce que nous prions pour toutes les personnes que nous connaissons, rien que celles que nous connaissons dans l'Assemblée, lorsque nous prions? Et Paul dit ici à Timothée, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit qu'on ne doit pas être égoïste lorsque nous prions. On doit élargir notre cercle, le champ, on pourrait dire, d'investigation de notre prière. Donc ici, l'exhortation consiste vraiment à élargir la vision du croyant lorsqu'il prie. Et pas seulement le restreindre pour lui, pour ses amis proches, mais à penser aux autres Et tout à l'heure, quand on priait, il y a quelqu'un qui a parlé des élections en Inde, par exemple, et de ce que cela peut avoir. Et ça va jusque-là. C'est-à-dire, il faut considérer ce qui se passe aussi ailleurs. Les chrétiens qui sont dans ces pays-là, ce qui s'y passe. Et puis, quand le Seigneur révèle ça à nos cœurs, priez aussi pour cela. Et donc, la Bible ne veut pas que le croyant soit qu'il prie avec parcimonie, hein, mais qu'il soit vraiment généreux dans sa manière de prier. Donc, c'est un appel à prier ici, bien sûr, pour le salut. Hein, on le voit bien, le thème, c'est la prière, mais le cœur, le sujet de prière proprement dit ici, c'est le salut. Je pense que vous le voyez bien ici, parce où est-ce que ça se voit? Verset 2, il dit « Priez pour le roi », etc. Verset 3, il dit « Cela est bon et agréable à Dieu, notre sauveur ». Donc c'est le titre de sauveur qui est utilisé ici pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, voilà, et parviennent à la connaissance de la vérité, etc. Car il y a quoi? Un seul Dieu est un seul médiateur, on est au cœur du salut ici, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. On parle de l'expiation, on parle encore du salut ici, vous voyez. Hein? Et donc c'est vraiment le cœur de la prière ici que Paul demande à faire pour les autres. Donc que l'on puisse être animé du désir de prier pour le salut de tous les hommes. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de sauter jusqu'en Inde tout de suite, mais on peut déjà penser autour de nous, à ceux que le Seigneur nous a donnés comme frères et sœurs. On peut déjà penser à notre quartier, à notre voisinage. Je peux déjà penser au quartier de l'Église, au voisin qui parfois est difficile et qui ne laisse pas garer la voiture à côté de chez lui. On peut penser à beaucoup de choses, hein. Mais on a ici de quoi, selon ce que l'apôtre dit ici, prier pour tous les hommes. Donc la liste de prières de Timothée ne devait pas être une liste restreinte. Donc prier pour tous les hommes, mais si aussi il ajoute quoi spécifiquement pour les autorités, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et c'est peut-être une catégorie de personnes pour laquelle on ne prie presque pas, on oublie souvent. On prie parfois pour les autorités, on prie généralement. Seigneur, je te prie pour notre pays, afin que... Et après, c'est fini. Je ne sais pas comment on fait souvent. Mais c'est une catégorie de personnes, les autorités, les gouvernements, peut-être pour lesquels nous n'avons pas même beaucoup de sympathie, hein, et pour lesquels aussi nous ne prions pas. Est-ce que nous pensons vraiment au président de la République dans nos prières? Est-ce que nous le nommons dans nos prières? C'est difficile, hein, à faire. Quand on le nomme, c'est peut-être comme un punching ball. On a envie de... C'est comme ça en France, hein, c'est le sport national, c'est de taper sur les dirigeants, hein, ici. Et peut-être que nous pouvons nous laisser aussi emporter par ça. Donc les autorités sont souvent nos punching balls. Hein. On aime leur jeter la pierre. Mais l'apôtre dit ici qu'il faut se jeter en prière. Au lieu de leur jeter la pierre, il faut se jeter en prière pour ces personnes-là. Lorsque Paul écrit ça à Timothée, on est à l'époque de Néron. On sait qui est Néron. Hein? Ce n'était pas un tendre, ce n'était pas l'ami des chrétiens, Néron, l'empereur Néron. D'accord? Et tout ce qu'il a fait. Eh bien, et Paul dit ici, priez pour les rois, les gouverneurs, etc., et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc les chrétiens de cette époque vivaient sous des gouvernements qui étaient vraiment hostiles à l'Évangile. Hein? Nous ne sommes pas dans ce type de gouvernement, en tout cas pas en Europe, hein? pas en France. Et nous vivons, on peut se réunir facilement sans qu'il y ait aucun danger pour nous. Et malgré ça, nous avons du mal, parfois, bien souvent, à prier pour nos autorités. Ici, les chrétiens souffraient à cause de ces autorités, mais Paul leur demande de prier pour ces autorités. Et si vous regardez Romains 13, versets 1 à 5, regardons ça rapidement. Il y a une section ici sur même la soumission que le croyant doit avoir à l'égard des autorités. Donc on ne va pas développer ce passage, mais juste le lire. Romains chapitre 13, verset 1, l'apôtre Paul dit ici que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et pour punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Est-ce que nous sommes capables de dire à Monsieur Macron, Dieu vous a établi là pour que vous puissiez gérer le pays? Monsieur Poutine, en son temps, Monsieur Saddam Hussein. Alors on peut penser, oui, quand ils sont bons, on peut dire que Dieu les a établis, mais quand ils sont mauvais, c'est pas Dieu qui les a établis. La Bible dit, l'apôtre Paul ne fait pas la différence ici, hein. Il dit Dieu a établi les autorités. Et je me souviens d'un homme, un pasteur, qui avait une fois, il était dans une conférence avec il avait été invité dans la commune avec des responsables politiques et tout, et il a dit au responsable, vous êtes l'instrument de Dieu pour faire régner l'ordre dans le pays, dans la ville ou dans la commune. Il dit, parce que c'est ce qui est écrit là. Il dit, vous ne le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis. Et c'était des incroyants. Il dit, vous êtes l'instrument de Dieu que Dieu a établi ici pour accomplir, mettre de l'ordre dans le pays. Et nous devons donc prier pour qu'il fasse ce que Dieu a prévu qu'il fasse. Hein? Il ne demande pas ici d'avoir de la sympathie. Non, il demande de prier. C'est la responsabilité de prier pour tous les hommes. Vous pouvez lire à la maison, on n'aura pas le temps de le regarder, mais 1 Pierre 2, verset 17, par exemple, ou bien Tite, chapitre 3, verset 1 à 3, qui parle aussi de cet aspect de l'autorité. Et notez que Paul dit ici dans le passage qui nous intéresse, en Timothée 2, on revient à 1 Timothée 2, ici qu'il y a un bénéfice à cela. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute honnêteté. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que Néron devient l'ami des chrétiens? Pas du tout, pas du tout. Mais même avec des gouvernements despotique ou difficile, il y a un certain ordre, parfois, que Dieu peut maintenir et qui peut même permettre que l'évangile progresse d'une certaine manière. Hein? Et ça nous échappe, ça nous échappe. Il faut accepter que ça nous échappe. Mais il y a des pays où les chrétiens souffrent et où l'évangile progresse peut-être davantage que dans nos pays où nous avons la liberté, où les chrétiens sont plus fervents, etc., où Dieu utilise la souffrance comme un tremplin. Et vous rappelez bien de cette phrase, le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Donc les gens souffrent, mais l'Évangile se propage d'une manière ou d'une autre. Donc n'ayons pas peur de prier pour les autorités, parce que la Bible nous le commande. Elle dit que nous pouvons même avoir une vie paisible et tranquille. Alors, bien sûr, le mot qui est traduit par paisible, c'est un mot qui fait référence aux circonstances ici extérieures. Et puis, le mot tranquille, si vous le cherchez dans le dictionnaire, il est, le dictionnaire biblique, il a le sens de ce qui vient de l'intérieur. Donc, il y a à la fois une paix extérieure et intérieure. Il n'y a pas de débat dans son cœur du chrétien parce qu'il sera en paix, parce que quand il prie pour les autorités, mais aussi, les circonstances extérieures peuvent changer, ou si elles ne sont pas changées, elles n'ont pas sur lui une emprise telle que lui, il est avec dans un esprit dérangé. Il peut vivre en paix et en toute tranquillité malgré les circonstances difficiles qu'il peut connaître à travers les différents gouvernements. Donc l'apôtre ne parle pas seulement de l'effet que la prière aura sur le monde extérieur, sur les dirigeants eux-mêmes, ou les circonstances, mais aussi de l'effet que cela aura sur la vie, la paix intérieure du croyant. il ne se laissera pas troubler, même en face d'un héron, et il ne se laissera pas troubler non plus dans des débats internes. Donc, il continuera à mener une vie, il dit, pieuse, et ça, en toute piété et en toute honnêteté, c'est-à-dire de manière révérencieuse envers Dieu, et il aura une conduite droite, même si les circonstances sont difficiles. Et je me rappelle, Pierre, je pense qu'il dit que ceux qui souffrent remettent leur âme à Dieu en faisant ce qui est bien. L'attitude du chrétien, c'est pas d'être dans la révolte, c'est même quand les circonstances sont difficiles, de chercher à vivre pour Christ et de chercher à vivre dans le monde difficile dans lequel il est, de manière droite, de manière honnête. Et cela caractérise particulièrement le chrétien. Donc, le devoir ici, premièrement, de prier sans restriction pour tous les hommes. Alors, bien sûr, on ne peut pas nommer tous les hommes de la planète. D'accord ? On dit, mais je ne peux pas prier pour tout le monde. Oui, peut-être pas. Mais on peut commencer avec, déjà, tous ceux qui sont autour de nous. Chaque fois que Dieu nous révèle quelque chose, ou il nous révèle une situation, on peut prier pour cela. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une fille de 14 ans qui m'a envoyé un SMS, la semaine dernière peut-être, 14 ans. Le SMS était écrit, et je suis sourde et muette, et ma mère est à l'hôpital, priez pour moi, parce que du haut de mes 14 ans, j'aime le Seigneur. Comme ça. Et puis j'ai vu ça arriver, je reçois beaucoup de SMS de personnes, ça vient d'Afrique, de partout. Alors, j'ai lu et puis j'ai pas fait attention à cela. Et puis elle a envoyé encore une autre fois un message, et puis une troisième fois, elle a écrit « Pourquoi vous ne répondez pas ?» Elle a dit « C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de prier. » Ça m'a blessé, ça m'a touché beaucoup, ça m'a tout touché à cause de la honte que j'avais. Je me suis dit, voilà une fille qui a écrit quelque chose et puis j'ai pas fait attention à cela. Du coup, j'ai prié pour elle et puis je lui ai répondu après, et pour sa maman surtout, et puis j'ai répondu après. Et elle a réenclenché bien sûr la discussion et puis sa maman est sortie de l'hôpital il n'y a pas très longtemps, hier ou avant-hier je crois, et puis elle a dit voilà, ma maman est sortie de l'hôpital, les médecins ne comprennent pas pourquoi, ils ont fait un scanner mais je sais que c'est Dieu, etc. Si vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez appeler, etc. Donc bien sûr j'ai dit qu'on peut appeler. Alors du coup elle m'a dit, mais vaut mieux que ce soit votre femme qui appelle, elle m'a dit. Donc ma femme va appeler. Mais pourquoi je raconte ça? C'est pour vous dire que oui, des fois je ne connais pas cette fille. Je ne l'ai jamais rencontrée, jamais vue. Mais c'est quelqu'un qui sollicite de notre part la prière, et donc elle avait même dit, je crois, quand j'ai relu, que votre église prie pour moi. Et j'ai failli dans cela, parce que bon, je connais pas, peut-être pas d'intérêt, et donc j'ai pas attaché une grande importance. Mais c'est probablement quelqu'un que Dieu nous révèle, nous met, voilà, qui nous envoie un SMS. Et il faut pas négliger ce genre de choses. Quand quelqu'un demande, sollicite la prière, je crois qu'il faut que l'enfant de Dieu soit sensible à cela et qu'il soit prêt, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, avant tout, à prier pour tous les hommes, qu'ils les connaissent ou qu'ils ne les connaissent pas. L'apôtre Paul parlait des Colossiens, il dit, il prie pour ceux qui n'ont pas vu son visage. Donc, autrement dit, qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est important pour nous, donc, de prier pour tous les hommes. C'est notre devoir de prier pour tous les hommes. Pas ceux que l'on aime, avec qui on a des atomes crochus, mais tous, sans exception. Et on ne sait pas ce que Dieu peut faire à travers cela. Deuxièmement, ici, et c'est une question que je vous posais, quels sont les arguments que Paul utilise ici pour exhorter à la prière pour tous les hommes et pour les autorités? Si vous avez regardé, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'il dit? Quel argument il utilise? Quelles raisons il donne? J'ai appelé ça les raisons de la prière sans restriction ici. Quelles raisons il donne? Est-ce que vous pouvez voir ça dans le texte ici? Oui, ça c'est donc tout de suite lié avec les autorités, hein. Il dit, afin que nous ayons une vie paisible. D'accord. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Voilà. Il dit ici que Dieu veut que tout homme soit sauvé. Il dit que ça? Est-ce qu'il dit pas autre chose aussi? J'ai vu autre chose là. C'est bon et agréable à Dieu. Donc on pourrait dire ici, si on prend c'est bon et agréable à Dieu. J'ai noté ici le plaisir de Dieu. Il plaît, ça plaît à Dieu lorsque le croyant prie. C'est bon, il dit ici. Et le terme que tu utilisais pour bon, c'est-à-dire c'est bon intrinsèquement, c'est bon en soi. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes en elles-mêmes, mais qui peuvent produire de bons effets. C'est-à-dire, il ne parle pas seulement du caractère bon, de la conséquence que cela a, mais il parle du caractère intrinsèquement bon de la prière. Et il dit, Dieu dit que cela est bon, et en plus, c'est agréable, cela plaît à Dieu. La prière, donc, a un effet sur le croyant, mais on voit aussi que c'est ce que Dieu veut. Il est agréable, l'homme qui prie est agréable aussi à Dieu, hein, qui prie ainsi pour tous. Deuxièmement, quelle autre raison on peut voir, vous l'avez dit, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on peut dire ici, c'est le désir de Dieu de sauver tous les hommes. Dieu est présenté ici comme le Dieu sauveur. Vous voyez le titre ici, hein? Dieu notre sauveur. Et donc c'est le caractère de sauveur, on pourrait dire, que Paul met ici en évidence dans ce passage. Et donc ce qui montre ici que la prière demandée touche bien sûr au salut des hommes. Dieu, le croyant, doit prier pour le salut de tous les hommes. Tout ce que Dieu met sur son cœur, ne doit pas les négliger, parce que Dieu veut le salut de tous les hommes. C'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et on peut trouver cela à plusieurs endroits dans la Bible. Est-ce que vous avez, alors je vous pose des questions, on fait travailler un petit peu, est-ce que vous avez d'autres endroits où il est dit que Dieu, au moins où on peut trouver cette pensée que Dieu désire le salut des hommes? Oui, dans Pierre, 2 Pierre 3:9, comme vous avez dit, Pierre, je vous donne la référence, hein. 2 Pierre 3:9, il est dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, on peut penser ici qu'il parle de vous, des croyants déjà, mais bon, il y a quand même l'idée du désir de salut ici, hein. Donc, quoi d'autre passage? Oui, tant aimé le monde, voilà, son fils unique. Croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On exprime encore là le désir de Dieu de sauver. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans Ézéchiel 18, il est dit, Ézéchiel 18, 23, il est dit, ce que je désire, donc Dieu parle à travers le prophète Ézéchiel, Ézéchiel 18, 23, je vous lis, il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meure? C'est une question qu'il pose. Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Puis au verset 32 du même chapitre 18 d'Ézéchiel, il dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Et au chapitre 33, verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Hein? On voit ici, hein, ce désir de Dieu. Dans le Nouveau Testament encore, dans Matthieu, rappelez-vous, Matthieu 23, 37, où Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc il y a partout dans la Bible ce désir que Dieu veut sauver tous les hommes. Et l'expression ici que Paul utilise quand il dit qu'il veut sauver tous les hommes, afin qu'ils parviennent, dit-il, à la connaissance de la vérité, cette expression-là désigne une connaissance, hein, qui est employée souvent pour exprimer le salut ici. Donc la connaissance ici désigne le salut. Regardez 2 Timothée 2, 25, quelques pages plus loin. 2 Timothée 2, 25. où l'apôtre Paul parle de comment redresser, verset 24, il dit déjà, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On a notre expression ici. Et puis encore au chapitre 3 et au verset 7, il parle de personnes qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jamais ils arrivent à cette connaissance, ces personnes-là. On parle aussi du salut. Et puis Tite 1.1, il dit, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc quand il utilise vraiment cette expression, qu'il y a quelque chose qui désigne vraiment le salut ici. Donc ça veut dire que Dieu, quand il dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité », il parle vraiment du salut, il ne parle pas de quelque chose de léger ici. Donc l'Écriture est claire sur ce désir de Dieu de sauver tous les hommes. Mais seulement on sait que tous les hommes ne sont pas sauvés. Alors certains posent la question, mais est-ce que Dieu faillirait dans son désir de sauver tous les hommes, cette volonté de sauver tous les hommes? Et c'est là que parfois les théologiens se séparent sur la manière d'expliquer cela. Pour certains, ils disent que tous ici ne considèrent, n'est pas forcément tous les hommes sans exception, mais plutôt tous les hommes sans distinction, tout type d'homme, un peu comme Paul dit ici, pour prier pour les rois, les gouverneurs, ceux qui sont élevés, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut dire que quand la Bible dit tous les hommes, c'est pas forcément tous les hommes. C'est comme nous quand nous disons tout le monde a fait ça. On sait bien que c'est pas chaque individu de la planète qui l'a fait, mais c'est une manière de parler de catégories dans tous les pays, dans tous les coins, les gens ils ont fait ça. Okay. Ici, il n'est pas nécessaire, je pense, de soutenir cela. Par contre, ce que moi je crois, c'est que ici, cela peut exprimer que Dieu a une volonté, qu'on appelle une volonté désir, une volonté générale, et puis il y a une volonté que certains appellent une volonté plus secrète, qui est les personnes qu'il connaît, qui seront réellement sauvées. Alors, Dieu peut désirer quelque chose, et ce désir-là, le salut de tous les hommes, et ce désir-là ne sera pas forcément, comment je vais dire cela, exécuté. C'est-à-dire, tous les hommes ne seront pas sauvés. Dieu peut désirer que tous les hommes soient sauvés sans que tous les hommes soient effectivement sauvés. Un exemple pour soutenir cela, lorsque Dieu dit dans Ézéchiel, on vient de lire le passage, ce n'est pas la volonté de Dieu que le pécheur meure. Il dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici de la volonté de Dieu? Il ne veut pas que le pécheur meure. Mais vous lisez, par exemple, dans 1 Samuel, et au chapitre 1 Samuel, chapitre 2, verset 25, ne cherchez pas, lorsqu'il est question des fils d'Élie qui vivaient n'importe comment, le prophète dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il parlait ici au fils d'Élie. Et la Bible dit, et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, c'est comme ça que leur père leur parlait pour les amener à la repentance, car l'Éternel voulait les faire mourir. Dieu ne veut pas qu'il meure, que le pécheur meure, mais ici on voit qu'il y a une volonté de Dieu qui se manifeste et qu'il veut faire périr ces personnes-là à cause de leur désobéissance. Mais en même temps, ce n'est pas la volonté de Dieu générale que le pécheur. Mais Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu désire le salut. Dieu désire le bien des autres. Et c'est vrai que le mal existe, mais quand il se réalise, il ne se réalise pas sans non plus la volonté de la volonté de Dieu. Alors certes, Dieu désire le salut de tous les hommes, et tous les hommes ne seront pas sauvés. Et on le sait. Parce que la Bible parle aussi, on ne va pas traiter cela ici, mais de la doctrine, de l'élection, du choix que Dieu fait des hommes. Mais ça n'empêche que ce que l'apôtre Paul veut souligner ici, c'est que Dieu veut le salut de tous les hommes, je crois ici, sans exception, sans distinction. D'accord ? Seulement, tous les hommes ne seront pas sauvés sans exception et sans distinction. Mais il ne traite pas de cette partie de la chose. Ce qu'il traite ici, c'est que puisque Dieu veut le salut de tous les hommes, il est important que nous, croyants, les chrétiens, prient pour le salut de tous les hommes sans exception. Parce qu'il y a une partie de la volonté de Dieu qui nous échappe. Et on ne peut pas dire, ah, mais si je prie pour quelqu'un et que Dieu... Non, ça n'a... Ce que le choix de Dieu ne nous appartient pas. Ce que Dieu fait, la mécanique, je parle comme ça de Dieu, ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est le commandement que Dieu nous donne. Il dit, priez pour tous les hommes, sans exception. Parce que c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est une vérité que la Bible dit. Mais la Bible dit aussi, ailleurs, que Dieu choisit, et on doit aussi l'accepter. Et on sait que tous les hommes ne seront pas sauvés à cause de leur péché, de leur incrédulité. Mais Dieu est un Dieu bon qui désire, et ça je veux le souligner, le renforcer, qui désire le salut de tous les hommes. 1 Timothée 4:10 dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Et il ajoute, mais principalement des croyants. Deux choses doivent être maintenues. Dieu est le sauveur de tous les hommes. Tous les gens profitent du salut en Jésus-Christ. C'est une grâce. Ce que les gens vivent aujourd'hui, c'est une grâce du fait que Christ a souffert aussi sur la croix. Il pleut, il fait beau, etc. Il y a tout cela, ça vient, c'est une grâce de Dieu. Mais le croyant particulièrement, celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, il bénéficie d'une grâce particulière de la part de Dieu. Et on doit le savoir ici. Donc la prière sans restriction est demandée ici, car Dieu a le désir de sauver tous les hommes. Et troisième raison ici que je pourrais ajouter, et puis je termine là-dessus, c'est la suffisance de l'expiation aussi pour tous les hommes. Jésus-Christ, homme, s'est donné lui-même en rançon pour tous. D'accord ? Et je crois que ce que cela souligne, c'est que le sacrifice de Christ accompli à la croix du calvaire est suffisant pour tous les hommes. Si tous les hommes devaient être sauvés, il n'y aurait absolument rien à ajouter au sacrifice que Christ a accompli à la croix du calvaire. Ici. D'accord. Et si vous lisez Marc chapitre 10, verset 45, où il est question, Marc dit à peu près la même chose, mais lui il dit que Dieu a donné Jésus a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Il ne dit pas pour tous, il dit pour beaucoup. Un peu comme le dit aussi Ésaïe 53, verset 12. Quelqu'un a Ésaïe 53, verset 12, peut-être peut nous le lire ici. Ésaïe 53, verset 12. Dernier verset qu'on va lire. Voilà. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Hein, ici. Donc ce que Paul souligne en disant ici que Jésus-Christ, homme, s'est donné lui-même en rançon pour tous, je crois que cela souligne, je crois aussi qu'il s'agit ici de tous les hommes, hein, et que cela souligne que l'expiation est suffisante pour tous. Pour tous. Et que l'offre du salut est faite pour tous les hommes. Personne ne pourra venir devant Dieu en disant, moi, ben, on m'a mis de côté. Non. Ceux qui seront en enfer le seront à cause de leur incrédulité, à cause de leur péché et à cause de leur refus. Et Dieu est un Dieu bon, dont le désir, ici, on le voit, est de sauver tous les hommes. Et le croyant, donc, l'exhortation ici pour nous, c'est de prier pour tous les hommes, parce que telle est la volonté de Dieu. Et je termine avec cette citation que j'ai trouvée dans un commentaire de John MacArthur. Il dit, c'est un puritain qui s'appelle Richard Baxter, donc 17e siècle. Il écrit, si bat en vous le cœur d'un chrétien ou d'un homme, qu'il s'émeuve pour les pauvres êtres humains qui vivent dans l'ignorance et l'impiété. Hélas, ils ont déjà un pied dans la mort et l'enfer. Des centaines de maladies les guettent. Et s'ils ont le malheur de mourir avant d'être régénérés, ils seront perdus à jamais. Avez-vous donc un cœur de pierre pour ne pas compatir avec tel homme? Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu et au danger qui menace les pécheurs, pourquoi êtes-vous chrétien vous-même? Par contre, si vous y croyez, pourquoi ne vous démenez-vous pas pour leur vie, pour leur venir en aide? Cela vous est-il égal que tant soit condamné dans la mesure où vous êtes vous-même sauvé? Le cas échéant, il y a de quoi avoir pitié de vous-même, car vous ignorez tout du concept de la grâce. Comment pouvez-vous vivre près d'eux, les croiser dans la rue, travailler à leur côté, voyager en leur compagnie ou causer avec eux sans même leur toucher mot de l'état de leur âme ni de la vie à venir? Si leur maison prenait feu, n'accouriez-vous pas à leur secours? Alors, comment ne pas leur venir en aide quand leur âme est presque dans le feu de l'enfer? Une citation de Richard Baxter qui nous pousse vraiment à réfléchir à cette responsabilité qui est la nôtre de prier pour tous les hommes et d'annoncer l'évangile à tous les hommes. Et le tous les hommes commence avec ceux qui sont déjà dans notre voisinage très proche. Si nous faisons ça, nous aurons aussi la pensée pour ceux qui sont plus au loin. Mais est-ce que cela commence avec, comme Jésus avait dit aux apôtres, Jérusalem, Samarie, et puis après jusqu'aux extrémités, du monde. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et nous te demandons qu'elle puisse saisir nos cœurs et que nous ne nous contentions pas simplement de l'écouter, que nous ne cherchions pas simplement à pénétrer les secrets de tes décrets ou des choses que tu nous tiens cachées, mais que nous sachions être soumis à ce que tu nous révèles déjà, que tu nous rendes obéissants, que tu nous donnes d'accepter ce que toi tu nous révèles par ton Saint-Esprit dans ta parole et que tu nous donnes de nous soumettre à ta volonté pour nous chaque jour. Donne-nous des cœurs obéissants, que nous puissions prier les uns pour les autres et que nous soyons toujours pleins de conscients de ce devoir qui est le nôtre, de prier sans restriction pour tous ceux que tu révèles à nos cœurs, et de porter aussi ta parole sans restriction à ce que tu places auprès de nous, pour la gloire de ton nom. Amen.